poil, 20h sur Radio G. Et c'est la deuxième émission de la nouvelle saison. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe et plus, on pourrait rajouter queer et bien d'autres choses encore. Nous sommes situés à Angers, au 15 rue de Jérusalem, entre la rue des Banchets et le cimetière de l'Ouest pour ceux qui voudraient plus s'y repérer. C'est toujours un peu joyeux comme référence, mais on est tranquille. En tout cas, c'est le boulevard des Deux Haies, en fait, si vous préférez. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas les Deux Haies, c'est la rue des Deux Haies. Non, c'est le boulevard, je ne sais plus, je vais l'oublier, je le retrouverai tout à l'heure. À force d'y penser, on n'arrive plus à le retrouver en direct, c'est pas grave. Donc, deuxième numéro et un spécial Pride Angers, puisque, si vous ne le savez pas, elle aura lieu samedi prochain, le 25 septembre. Et alors là, attention, c'est un nouvel espace que nous occuperons désormais, c'est celui de l'esplanade Cœur de Maine, donc vraiment en Cœur de Maine. Donc, ce que nous faisons, comme d'habitude, nous ouvrons avec l'agenda, et puis aujourd'hui, plein d'invités que nous allons découvrir dans quelques instants. Sur l'agenda, évidemment, inutile de vous dire que samedi 25, vous avez mis une grosse croix rouge et vous avez marqué « Je marche, je me fais beau, je me fais belle » et je viens surtout dès 11h au village associatif sur cette esplanade. Simplement pour vous dire que la vie de Quasar, dans les circonstances que l'on connaît, va reprendre sa vie quasiment normale, bientôt des conviviales avec le pass sanitaire obligatoire puisque nous mangerons ensemble, nous devrons effectivement prendre soin les unes des autres, mais pour les autres temps, eh bien, il y aura des réunions, le masque, les gestes sanitaires barrières, donc tout ce que vous connaissez et avec ce avec quoi nous allons vivre pendant des mois encore, très certainement, puisque vous l'avez certainement compris, dans le Maine-et-Loire en tout cas, les chiffres de l'épidémie baissent et c'est tant mieux. Autrement, qu'est-ce qu'il faut marquer sur l'agenda ? Oui, une chose très importante, les rendez-vous individuels, les demandes pour les personnes qui sont victimes d'agressions, de discriminations, les rendez-vous pour les personnes transgenres, pour les familles, pour les mineurs transgenres, agents et non-binaires, sont toujours ouvertes. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le mail général contact@quasar.fr, quasar, Q-U-A-Z-A-R. Sinon, pour la team trans, c'est très simple, team T-E-A-M tiret, trait d'union si vous préférez, trans@quasar.fr. Pour les demandeurs d'asile, c'est pareil, le groupe, le pôle droit des étrangers est totalement ouvert avec de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes et les dossiers vont bon train. Vous aurez noté également que pour l'agenda, je vous disais qu'il y a quelques instants que les conviviales allaient redémarrer. On vous en reparle à la prochaine émission pour le mois d'octobre parce qu'on y prend vraiment goût à nous retrouver et à pouvoir partager un morceau et boire un verre ensemble. C'est parti pour ce numéro spécial Pride sur Radio G dans ce Quasar on the Air avec plein d'invités et enfin, enfin, une majorité, une écrasante majorité de dames, de femmes, de copines qui nous rejoignent et on est vraiment très très heureux. Alors certaines vont nous rejoindre par téléphone dans quelques instants et notre première invitée va se sentir un peu seule, mais c'est pas grave. Bonjour Florian.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Ça va très bien.
Bon, t'as un peu l'habitude du micro ici parce que tu officies à d'autres horaires, si j'ai bien compris.
Tout à fait, dans d'autres émissions sur Radio G.
Voilà, on peut le dire. Allez, vas-y, cite, comme ça, ça fait de la pub.
Alors, la nouvelle saison, c'est donc CMA, c'était mieux après, le mardi soir, tous les 15 jours, entre 19 et 20 heures.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors toi, tu représentes Amnesty.
Voilà, Amnesty International.
Voilà, et tu vas nous expliquer un peu, en rapport avec la marche, ce que vous allez faire et ce que peut être Amnesty, ou en tout cas nous le rappeler. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors toi, tu représentes le planning familial.
C'est ça.
Et tu es administratrice.
Exactement.
Donc tu vas nous expliquer un peu les actions, les valeurs du planning et surtout ce qui est en lien avec la santé et telle que définie pour la Pride, d'accord?
Oui.
Alors Florian, je me tourne vers toi en premier. On attaque cette première partie avec quand même un rappel. Alors on expliquera les horaires de la Pride et ainsi de suite tout à l'heure, hein, à la fin de l'émission. Le rendez-vous à 11h à l'Esplanade pour le village et 14h pour le rassemblement pour la marche. Mais justement, cette marche, en tout cas cet événement Pride, puisque nous l'appelons Pride en règle générale, même si ce sont deux temps différents, village et marche, le mot d'ordre retenu par les associations cette année est un mot d'ordre qui parle de santé, qui est LGBTI-phobie, sérophobie, on va en reparler dans quelques instants, notre santé en danger, tous et toutes unis pour lutter. Alors, il y a plein d'entrées dans ce qu'on vient de dire pour ce slogan. Alors d'abord, à quoi fait référence ce slogan ? Est-ce que tu peux nous dire exactement d'où ça peut venir ?
Alors oui, alors juste pour rappel, j'interviens ce soir au titre de l'association AIDE.
Oui.
Parce que j'ai parlé de l'émission, mais c'est pas le
bien
principe
sûr.
De ça.
Mais donc toi, tu es trésorier régional.
Trésorier régional de l'asso AIDE.
D'accord.
Donc, en région,
oui.
Et notamment sur Angers. Et donc, l'idée du slogan, c'est de lier les discriminations avec la santé, parce qu'on se rend compte que, alors par rapport au VIH, par rapport aux hépatites, on se rend compte que les discriminations font le lit encore et toujours aujourd'hui des épidémies à VIH et hépatite. Voilà.
Donc et on s'en rend compte comment, alors ?
Alors, on s'en rend compte parce que les personnes qui sont aujourd'hui concernés par le VIH, les hépatites, sont déjà éloignés du soin.
Oui.
Et le fait d'être discriminé, alors selon les LGBTI-phobies, hein, selon l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais aussi les personnes qui sont étrangères, alors chez elles, on appelle les personnes migrantes, donc du fait de leur nationalité ou de leur origine, sont discriminées et donc s'éloignent encore plus du système de santé, du soin, ou en tout cas n'y rentrent pas, ou pas suffisamment. Parce que de peur d'être encore plus discriminé, alors de la part des personnes, mais aussi dans le milieu médical aussi, on constate encore des discriminations, même si les choses s'arrangent, c'est de mieux en mieux, mais il reste encore des zones d'ombre.
N'y a-t-il pas une enquête qui a valorisé tous ces points ?
Alors, il y a une enquête de Santé publique France, voilà. Donc c'est l'agence française de santé publique,
oui.
Qui a sorti à l'occasion de l'IDAO, donc le 17 mai de cette année, voilà, une étude justement sur l'ampleur et l'impact sur la santé des discriminations et violences vécues par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans en France.
Alors elle dit quoi c'est exactement en termes de résultats ?
Elle dit que 35% des personnes LGBT ont déclaré avoir fait l'expérience déjà d'au moins une forme de discrimination au cours de leur vie, en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà effectivement beaucoup. On constate aussi des taux beaucoup plus élevés, notamment sur notamment sur les tentatives de suicide, sur les impacts sur la santé mentale ou sur la santé sexuelle. Hein. Donc des impacts, une situation dégradée par rapport à la population générale, et notamment par rapport aux personnes hétérosexuelles. Voilà, donc elle montre vraiment le lien entre les discriminations subies par les personnes et la santé et la prise, enfin, et le fait de prendre soin de ça, de prendre soin de soi qui n'est pas présent, en tout cas en majorité chez les personnes LGBT.
Et donc les chiffres là dont on parle sont vraiment ceux de l'enquête. Est-ce qu'il n'y a que sur le public gay ou c'est vraiment très très large?
Alors non, c'est vraiment toutes les personnes LGBT.
D'accord. Okay.
Puisque alors après il y a des taux plus élevés selon effectivement les orientations sexuelles aussi. Alors là j'ai pas les chiffres en particulier,
oui.
Mais voilà, on constate qu'il y a quand même des facteurs. Alors en général c'est En Shade, on appelle ça des vulnérabilités,
oui.
Qui s'ajoutent en fait, et qui font que les difficultés sont de plus en plus importantes en fait. Alors je vais prendre des exemples, mais par rapport au VIH par exemple, on constate aujourd'hui que l'épidémie de VIH est très active, en tout cas elle augmente chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui en plus sont originaires de pays étrangers en fait, qui n'ont pas de nationalité française, mmh. Alors que chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, que j'appellerais HSH pour aller plus vite ce soir, nés en France, on voit que l'épidémie stagne, en tout cas il n'y a pas d'augmentation significative.
Sauf qu'on reste toujours
à des niveaux très élevés.
Très élevés de 6000 contaminations au global,
hein,
toutes populations
tout
confondues, d'accord.
Et les HSH représentent 43% d'ailleurs des nouvelles contaminations par an. Au VIH.
On n'est pas loin des 50% quand même.
Oui, on n'est pas loin des 50%. Voilà, un autre exemple, les personnes travailleuses du sexe, par exemple, qui sont originaires, c'est pareil, qui ne sont pas nées en France, donc originaires d'un autre pays, notamment subsaharien, et d'Amérique latine, par exemple, et qui en plus sont personnes trans. Donc là, il y a entre guillemets trois vulnérabilités différentes, on constate, c'est pareil, des taux assez importants de contamination au VIH et donc des prises de risque très importantes.
Et d'autant plus que les personnes vivant des situations très difficiles, le fait par exemple pour les demandeuses ou demandeurs d'asile d'être dans l'obligation de raconter à nouveau son histoire, de créer un dossier, d'entrer dans une culture différente, de comprendre ce que les officiers dits protecteurs de l'OFPRA vont leur poser comme question, voire les pièges qu'ils vont leur poser, c'est très compliqué de pouvoir à la fois vivre psychologiquement cette phase en termes de santé mentale et puis en termes de santé sexuelle, pouvoir se protéger véritablement, puisqu'on sait que c'est dans les 4 mois de leur arrivée sur le sol français qu'il y a risque de contamination.
C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est effectivement le mythe qu'il faut absolument démonter tout le temps. C'est le fait qu'on entend souvent, le fait que les personnes arriveraient sur le territoire français déjà malades et en tout cas déjà contaminées par le VIH, ce qui est faux en fait, puisque en général les personnes se contaminent sur le territoire français les premiers mois de leur arrivée.
On le comprend d'autant plus que le fait de pouvoir arriver quand même sur un territoire, en tout cas un pays dans lequel le risque encouru parce qu'on est homosexuel n'est plus le même que dans le pays d'origine, effectivement, ça ouvre des perspectives de sensualité ou de sexualité, et que comme ces données-là ne sont pas maîtrisées, la protection, la réduction des risques, les outils, comment accéder aux préservatifs, aux gels à queue et tout, la difficulté, c'est là où la contamination intervient.
C'est ça, effectivement.
Donc, dans notre revendication, c'est-à-dire ce lien entre les discriminations, le vécu, enfin plus exactement le mal vécu, je trouve qu'il y a une phrase du rapport qui est quand même assez intéressante, il faudrait peut-être le développer. C'est pas tant que les personnes, parce qu'elles sont LGBTI, vont mal, c'est ce qu'on leur fait subir qui est la cause de pourquoi elles vont mal.
Oui, c'est parce qu'elles sont, en fait.
Exactement.
C'est vraiment l'environnement. Concret d'ailleurs, tous ensemble, enfin on va dire
oui, sociétalement,
c'est ça, il y a une situation qui fait que les personnes sont discriminées, rejetées, marginalisées, et c'est ça, et c'est ça justement qui fait que les épidémies continuent et qui fait que les épidémies concernent principalement les publics qu'on a cités, voilà, donc LGBT, les personnes migrantes, consommateurs de drogues aussi, de produits psychoactifs,
c'est ça.
Puisque dans l'assaut, on intervient aussi auprès d'eux. Et on constate d'ailleurs des liens aussi, puisqu'on a parlé de santé mentale aussi, de santé sexuelle, on constate chez les HSH une augmentation aussi de l'utilisation, en tout cas de la consommation, des produits psychoactifs.
Et là, on peut parler aussi du chemsex.
Donc là, on peut parler du chemsex, effectivement. Donc c'est la consommation de produits psychoactifs dans un cadre sexuel qui
est festif, explose,
vraiment.
Et festif, on est d'accord. Hein,
festif,
c'est pas que sexuel. Enfin, je veux dire, il y a un environnement, un cadre.
Oui,
voilà.
Qui explose depuis maintenant un certain temps et qui est assez critique et pour lequel les pouvoirs publics ne sont pas encore trop
sensibilisés.
Alors, sensibilisés, ça commence. Après, Sur le côté action, on attend encore pas mal de choses.
Mais... On voit bien qu'il y a un côté moral beaucoup la santé, à l'orientation de la santé donnée par les gouvernements ou les gouvernants. C'est-à-dire que sur ça, on voit bien qu'ils ont la difficulté de prendre le problème à bras-le-corps plutôt que de juger et de plutôt passer à l'action que d'être sur un aspect moralisant.
Oui, et puis en plus, on est, alors là, forcément, quand on parle de VIH, d'hépatite, on est vraiment sur un aspect santé sexuelle, donc sexualité.
Oui.
Et on voit bien que là-dessus, on est encore très... Finalement, même si les idées la société est de plus en plus ouverte quand même à ces questions-là, mais on constate quand même qu'il y a quand même des blocages ou des réticences, et notamment dans le milieu médical aussi, où certains outils sont diffusés de façon aléatoire selon ce que pense le médecin ou selon ce qu'a envie de faire le médecin, par exemple. Voilà.
Donc, dans le temps qui nous reste maintenant, est-ce que toi, tu pourrais nous donner les pistes des solutions que vous préconisez à AIDE ? On n'a pas parlé de la PrEP non plus, par exemple. Il faudrait peut-être aborder cette question-là. Alors, est-ce que sur Angers, c'est vraiment efficace ? Moi, j'ai quelques difficultés à comprendre les chiffres qui nous sont donnés, notamment dans le cadre du Corévi. Le nombre de cas vraiment peu important pour le Maine-et-Loire en comparaison des résultats des autres départements. Il y a quand même des questions qui se posent, je trouve.
Alors justement, on est toujours sur cette question finalement où le médecin finalement il est maître de la situation entre guillemets par rapport à la PrEP notamment, puisque la délivrance elle se fait que par des médecins. Alors à l'époque c'était des médecins hospitaliers en CGID. Aujourd'hui c'est ouvert aux médecins généralistes. Et alors le blocage qui reste encore en Maine-et-Loire, c'est qu'aujourd'hui la PrEP est principalement délivrée au CHU, au CGID.
Alors on n'a pas expliqué ce qu'était
la PrEP, c'est le traitement préventif en fait qui permet de se prémunir du VIH si
d'être en étant séronégatif.
En étant séronégatif, voilà, de rester séronégatif.
Et on prend une trithérapie ou tout au moins l'équivalent d'une trithérapie avec différentes possibilités. On ne va pas les détailler là, évidemment, mais ça permet effectivement quand on sait qu'on peut prendre des risques et qu'on est dans l'incapacité pour des tas de raisons
d'utiliser se protéger autrement.
Le préservatif. Et plein d'autres possibilités, c'est un moyen de ne pas être contaminé et de couper cette longue litanie des chiffres de résultats. Malgré cela, pour l'instant, on est toujours sur un seuil de 6000.
Oui. Oui, parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau suffisant de prescription de la PrEP dans les populations qui sont les plus vulnérables et les plus exposées au VIH, qui sont les HSH, les personnes migrantes.
Donc la PrEP, quoi d'autre ?
Alors la PrEP, ensuite on a le TPE, le traitement post-exposition, donc ça c'est le traitement après, c'est une fois qu'on a été exposé au risque.
On s'envoie en l'air, la capote a craqué, le camarade a éjaculé et ne s'est pas rendu compte que le préservatif était craqué,
par exemple,
nous non plus. Résultat, on fait quoi ?
On va aux urgences, dans les 48 heures, le plus tôt possible c'est le mieux. Après on a 48 heures pour une efficacité. L'efficacité se réduit au fur et à mesure que les heures passent. Alors en Maine-et-Loire, on est encore plutôt là-dessus sur le TPE. Je pense qu'on peut arriver à y aller. Après, c'est toujours la même chose. C'est très médico-dépendant aussi, c'est-à-dire que sur qui on tombe comme médecin, sur ses propres représentations, donc on en revient toujours à la même chose, sur la propre façon dont il voit la sexualité, sa morale, tout ça, on peut se heurter en fait à des refus. Chez AIDE, on accompagne aussi les personnes et quand il y a des refus, on est au courant et on essaie d'avancer avec eux. Mais ce qui reste aujourd'hui présent, alors de façon très minime quand même, mais on constate quand même des refus de TPE, des refus de PrEP. Alors ça, des refus de PrEP, il y en a.
C'est vraiment anormal.
Il y en a plein. Ce qui fait refus de PrEP, en fait, c'est mise en danger de la personne aussi. Parce qu'un médecin qui refuse la PrEP à une personne qui elle-même sait qu'elle a des prises de risque. C'est pas le médecin qui va savoir si la personne a des prises de risque. Ouais. La personne sait elle-même. Le médecin, j'ai envie de dire, il met en danger la personne parce qu'elle peut se contaminer les mois d'après.
C'est ça.
Les jours d'après, d'ailleurs.
Les autres outils, il y a l'autotest.
Alors, il y a l'autotest. Ouais. C'est un dépistage qu'on fait tout seul. Il y a le dépistage, quand même.
Et oui.
Le dépistage.
Cégide ou médecin de ville. Tout à fait. Ou dépistage de sang.
Par prise de sang ou dépistage rapide.
Voilà, c'est ça.
Aussi dans le TROD. Dans les associations, le TROD, voilà. Donc, la prise de sang. Donc, dépistage, certes, dépistage répété aussi, c'est un outil. C'est-à-dire tous les trois mois, se refaire dépister au VIH, aux IST, aux hépatites. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent et qui, malgré tout, fonctionne, c'est le TASP. Donc ça, c'est le traitement des personnes séropositives.
Oui, aussi rapide que possible.
Voilà, aussi.
Traduit littéralement, presque.
C'est ça. Donc, qui fait que les personnes séropositives qui sont sous traitement, en fait, sont indétectables, donc ne transmettent pas le virus.
Ça fait partie des outils. Tu nous rappelles où vous êtes situé à Angers?
Alors, nous sommes 11 Square Churchill, c'est à la Roseraie.
À la Roseraie.
C'est la région 23 du tramway.
Il y a le numéro de téléphone, il y a les horaires, les permanences.
Sur Facebook, Aide Angers, par exemple.
Et on peut vous retrouver. Tu ne bouges pas, on te remercie. À tout de suite.
Radio G. www.radio-g.fr.
C'est toujours plaisant de lancer un titre qui ne fonctionne pas. C'est vraiment pénible, je vous le dis. Hein, il y a des platines qui ne marchent pas, mais bon, ça arrive. Alors, est-ce que je tente l'autre? C'est pas sûr, parce que je vais pas y arriver non plus. Donc, allez, je vais être obligé de vous mettre un morceau qui, lui, va fonctionner. Ou alors, on est dans le bazar, voyez-vous. Donc, est-ce que celui-là, par exemple, pourrait fonctionner? Oui, c'est le même résultat, donc c'est la même. Alors, on va faire autrement, vous voyez, comme quoi la magie de la radio, la magie de la technique, c'est de les retrouver directement, mais vraiment en direct sur une autre piste. Alors, voici Lil Nas X et on en reparle après.
Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.
Ay, couple Grammys on him, couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, throw it back, ay, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was a year, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they waiting for, get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches like me dear, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody tryna sue me. You call me Nas, but your hood call me Doobie. And this one is for the champion. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors, hey, where's y'all sense of humor? Hey. I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my
my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Run from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, get your soul. Just tell them that the break is over. Yeah.
Le très célèbre Lil Nas X, avec son clip où on est tous fous, alliés, où il est entièrement nu, en prison, et il est avec son compère. Enfin, vraiment, on ne parle que de lui avec son nouvel album Montero, qui vient juste de sortir.
Radio G. www.radio-g.fr.
C'est Quasar on the Air sur Radio G 101.5. Vous êtes bien calés, la soirée n'est pas terminée et honneur aux femmes maintenant. On va pouvoir les entendre jusqu'à la fin de l'émission quasiment non-stop. Et ça nous change tellement et on est tellement heureux de vous accueillir toutes. Alors on va parler avec Sophie maintenant. Bonjour Sophie. Tu es là ? Non, je ne crois pas. Si, j'arrive pas à t'entendre. Non, c'est tu es là. Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Ah, voilà. Tu étais caché derrière la forêt de bras de micro. Alors, Sophie, toi, tu es bénévole à Amnesty International et oui. Tu vas venir nous parler de la présence d'Amnesty et du sens de la présence d'Amnesty à la marche, globalement à l'événement, même si vous n'aurez pas de stand, ça n'a pas d'importance parce que vous serez répartis dans la marche. Alors, Amnesty, finalement, qu'est-ce que tu pourrais nous présenter et quelles sont les valeurs que vous défendez ?
Alors avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une organisation internationale non gouvernementale qui est, on a fêté cette année son 60e anniversaire dans sa création vraiment internationale. Le siège est à Londres d'ailleurs. Et c'est principalement et notablement la défense des droits de l'homme que nous cherchons à promouvoir et à... Et s'il y a lieu de dénoncer quand les droits ne sont pas respectés, les droits humains pour tous, quelles que soient les raisons pour lesquelles les droits sont bafoués. Donc nous nous appuyons bien évidemment, comme beaucoup d'organisations comme ça, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et ce qu'il est important de notifier, parce que je crois que c'est ce qui fait aussi sa crédibilité et son poids sur le plan international, c'est que notre mouvement est indépendant de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Nous ne sollicitons aucune subvention des États, des partis politiques ou des entreprises, et nous finançons nos actions essentiellement grâce au soutien de nos membres et de nos donateurs. Donc ça, c'est aussi pour ces raisons qu'aujourd'hui, je crois que je peux dire que dans tous les pays du monde, quand Amnesty dit ou fait quelque chose, ça a quand même du poids. Notre indépendance nous permet d'agir en toute liberté partout dans le monde pour prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de ces droits afin de faire de la victoire une réalité. Donc voilà, et les principales actions que nous menons, parce que ça on ne le sait pas toujours très très bien, c'est enquêter. Donc il y a partout, dans les principaux pays où il y a les droits humains sont bafoués, des personnes qui sont là pour essayer de rassembler un certain nombre d'éléments, de documents, de témoignages concernant le fait qu'on ait bafoué certains droits. Donc ça, c'est une des premières choses. Après, sa deuxième mission, c'est d'alerter et de faire en sorte qu'effectivement, aussi bien au niveau du grand public qu'au niveau des États, qu'au niveau des ambassades aussi, par exemple, ou au niveau de certains représentants d'État, on signale qu'il y a un ensemble de choses qui ne va pas, qui dysfonctionnent dans ces États mêmes. Donc voilà, il y a, pour alerter d'ailleurs, je vous le signifie, il y a 100 équipes de chercheurs dans le monde, 70 rapports publiés chaque année et 150 pays qui sont couverts. Et la troisième action, évidemment, c'est d'agir au mieux et le plus largement possible, soit d'agir sur des actions, ça nous arrive de mener des actions fortes, collectives, etc., soit d'agir aussi en étant ça et là, comme là on le fera pour la Pride, de façon à ce qu'on nous faire connaître, mais aussi à se mobiliser autour d'actions qui nous paraissent importantes. Et puis agir aussi, et ça je vous invite tous à le faire, c'est sur notre site internet, déjà parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, et que si vraiment vous voulez, que vous soyez étudiant, élève, adulte ou autre, avoir un certain nombre d'informations concernant certains droits et certaines situations dans certains pays, c'est très intéressant, et quand on est adhérent, d'autant plus qu'on peut aller plus loin dans le site et avoir un certain nombre de documents, je vous invite à le faire, entre autres des films, entre autres des outils, etc. Donc ça, c'est important aussi de savoir. Et un des éléments majeurs que nous utilisons, ce sont aussi des pétitions qui sont assignées directement sur le site, sur qui cible en général la libération de certaines personnes ou le fait de défendre certaines personnes.
Avec des objectifs de signature, de nombre, voilà. Qui sont importants. Aujourd'hui, la voie numérique a pris une importance considérable.
Voilà, il y a ça, mais même le fait de la pétition, souvent on nous dit « Oh, c'est pas sûr que ce soit très efficace, etc. » On peut vous dire, chaque année, le fait du poids des pétitions, du nombre en tout cas, voire même des courriers que l'on envoie aussi, là je vois, on va en parler, mais il y a en Turquie par exemple quelque chose qu'on a bafoué certains droits de manifestation à des personnes LGBTI. Mmh. Il y a deux personnes qui sont poursuivies et qui sont enfermées dans une prison à Ankara. Melih Balkan et Özgür Gür, qui risquent 3 ans de prison. Mmh. Et donc, plus on a le poids, et là, c'est...
Plus on parle d'elles. Hein,
voilà,
ça.
Et même voir écrire au gouvernement. Donc, on a des lettres types que l'on peut envoyer par mail, par courrier, etc. Bon. Et donc ça, c'est très important, parce que pour nous, c'est vraiment un des éléments majeurs, même si on est tout seul à faire ça devant son ordi, et même si on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer, on a vu des personnes de différents âges pouvoir avoir des difficultés, il y a toujours moyen d'agir. Donc ça, c'est important. Et je vois dans les actions concernant et ciblant les personnes LGBTI, je crois qu'on est vraiment très attaché à ça au sein d'Amnesty. Il y a eu à la fois cette action actuellement qui est menée par rapport à ces deux personnes en Turquie, mais aussi en Hongrie, parce qu'au mois de juin aura été une journée sombre pour les droits LGBTI. En plein mois des fiertés, le Parlement hongrois a voté à une large majorité une loi visant à limiter la représentation aux mineurs des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Mmh. Et cette loi est ouvertement homophobe et transphobe. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, nous intervenons, que ça soit en Europe, que ça soit sur certains... Bon, c'est pas nous qui le faisons personnellement, mais il y a des personnes, voilà. Il y a des personnes, et je peux vous dire, ici, que je suis allée à des assemblées générales nationales, il y a vraiment des grandes pointures en matière de droit international, etc. Et qui interviennent donc là où il est important d'intervenir. Et voilà, je vois aussi les notifier dans le site. Par exemple, quelqu'un en Finlande s'inscrit Kupila, je m'excuse, le nom est un peu... ne s'est jamais perçu comme une femme. Pourtant, les papiers d'identité de cet étudiant en médecine âgé de 21 ans disent qu'il est de sexe féminin. Et donc, il y a un portrait un petit peu de cette personne qui permet comme ça aussi de notifier. Il n'y a pas nécessairement de pétition et l'action, elle n'est pas nécessairement... à mener, mais c'est au moins alerter
et présenter la situation des personnes transgenres dans le pays.
Voilà, exactement. Bon, il y a toujours mieux à faire. Je vois par exemple par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, Amnesty a beaucoup participé aussi à ça et c'était en 2018. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité d'aller sur le site, de nous contacter aussi éventuellement si vous voulez intégrer, parce que nous avons deux groupes à Angers, le groupe 51 et le groupe 100.
Et on sait pourquoi 51 et 100, ça
c'est historique,
toujours...
j'avoue que c'est un peu compliqué, moi-même je n'étais pas à l'origine, mais on n'a pas nécessairement les mêmes cibles non plus, etc. Okay.
Voilà pourquoi, d'accord.
Voilà, et puis sur notre groupe, c'est Angers 2. Mmh. Angers 2 at amnestyfrance.fr, le groupe 53, Oui, c'est 51, pardon. C'est angers1@amnestyfrance.fr.
On va s'y retrouver. En tout cas, merci Sophie d'être venue jusqu'au
micro. Je vous invite à aller sur le site aussi, amnesty.fr. Donc, amnesty, hein, c'est pas l'amnesty comme là. Non. C'est A-M-N-E-S-T-Y, puisque c'est anglais.
Merci. Quasar en d'hier, Radio G101.5, l'émission de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers, avec une nouvelle invitée qui a rejoint cette forêt de micros autour de la table. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors on t'accueille parce que tu es toi administratrice du planning familial. Alors ça veut dire quoi d'abord être administratrice pour, on voit bien ce que ça veut dire dans une association, mais finalement pour le planning ça veut dire quoi exactement?
Alors en fait être administratrice ou administrateur au planning c'est faire partie du conseil d'administration, comme une asso classique, comme à peu près toutes les assos qui disposent d'un conseil d'administration. Et en fait, c'est un conseil qui va avoir des rôles très différents. Ça peut être un rôle d'employeur, c'est aussi un rôle décisionnel dans certaines institutions. Mmh. Enfin, on participe à des projets, par exemple, avec la mairie ou avec des choses comme ça. Et c'est un peu l'instance décisionnelle du planning, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et alors, maintenant, si tu devais nous présenter l'activité du planning.
Alors, l'activité du planning, elle se centre surtout autour des questions de santé sexuelle et de vie affective. Mmh. C'est vraiment nos missions principales, en fait. Donc, pour la santé sexuelle, ça va être, par exemple, pouvoir recevoir des personnes en rendez-vous, donc qui seront reçues par des conseillères, pour parler de santé sexuelle, pour parler de contraception, de grossesse, de choses comme ça. Pour parler aussi de vie affective, ça peut être tout ce qui peut concerner la vie de couple ou des interrogations sur la vie affective, quelle qu'elle soit. Et nous, on milite vraiment pour ouvrir la santé sexuelle à tous et pour la rendre accessible à tout le monde, en fait.
Alors, sur le rapport à la thématique de cette année, sur la Pride, vous êtes pleinement dans le cœur de cette cible-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous constatez, tant sur l'aspect LGBTI, sur l'aspect féministe, les femmes aujourd'hui, dans leur situation de vie, qu'est-ce que ça induit sur leur santé ?
Déjà, nous, on constate que la santé sexuelle pour les femmes et pour toutes les personnes, en fait, qui sont concernées par ces problématiques-là, ça reste quelque chose de très compliqué et de très tabou, encore aujourd'hui. Enfin, on le remarque même quand on fait des actions de terrain, où on rencontre du coup peut-être des futurs usagers et usagères, que les questions de santé sexuelle et même des questions de vie intime plus largement sont encore des choses qui sont très taboues et dont on n'ose pas parler. Et donc nous, comme on accueille de façon complètement anonyme, ça rassure aussi le fait de pouvoir en parler. Et après, sur les problématiques LGBTQIA+, nous, on inclut aussi ces personnes-là dans la santé sexuelle, parce qu'on considère que c'est un enjeu qui est très important pour ces personnes-là. Et on peut aussi accompagner sur des sujets qui peuvent les toucher, comme par exemple une transition ou des choses comme ça. Et ça peut permettre de trouver un soutien et un accompagnement dans ces processus qui ne sont pas nécessairement simples à envisager, surtout quand on est jeune. Voilà.
Il y a beaucoup de blocages du monde médical, il y a encore des choses assez inacceptables pour les femmes et les hommes sur le plan de la santé sexuelle aujourd'hui, de ce que vous constatez, vous, sur le Maine-et-Loire ?
Nous, on constate encore des blocages, surtout des blocages personnels sur la santé sexuelle. On a, par exemple, des personnes qui nous expliquent que pour elles, c'est très compliqué des examens gynécologiques, parce qu'ils sont traumatisés par un examen gynécologique qui s'est mal passé. Donc, on constate encore que c'est des choses qui sont pas nécessairement simples, même si on sait qu'il faut un suivi régulier.
Oui.
C'est pas nécessairement simple de faire la démarche parce qu'on a eu une mauvaise expérience au début de notre vie intime sur ce genre de sujet. En Maine-et-Loire, on le constate aussi, puisque je pense que c'est comme partout. C'est des blocages qui existent à peu près partout. Et on constate aussi que c'est parfois compliqué de trouver des praticiens pour certaines pratiques. On pense notamment aux IVG, où ça peut être compliqué pour les IVG de trouver des médecins qui acceptent de la pratiquer. Donc nous, on oriente aussi et on conseille de s'orienter vers tel ou tel praticien ou vers telle structure. Voilà, nous, notre but, c'est vraiment l'orientation et le conseil.
Est-ce que, par hasard, à cette question-là, vous avez, vous, un début de réponse ? Est-ce que vous avez des retours, par exemple, de femmes lesbiennes qui sont maltraitées par leur gynéco ?
Nous, on a des retours de femmes en général.
En général,
on n'a pas spécialement de femmes lesbiennes. Mmh. enfin, en tous les cas, pas.
Sur la thématique, je voulais dire, vous êtes lesbienne, vous n'avez pas besoin de frottis, vous n'avez pas besoin d'un certain nombre d'examens, ce qui est parfois ce qui leur est répondu.
Oui, bah effectivement, on entend ça partout.
Hein,
oui,
bien d'accord, sûr. Hein, d'accord.
On entend ça partout, même en dehors du planning. On remarque aussi que c'est une problématique qui est grandement généralisée. Après, nous, au planning, enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu. Après, je pense que ça a existé. Mais c'est des problématiques qui restent encore très importantes et l'accès à un suivi gynécologique pour les femmes lesbiennes, c'est quelque chose de très compliqué à cause effectivement de praticiens qui ont des fausses croyances sur ce que doit être la vie sexuelle ou pas. Voilà.
Ça fait partie des réalités.
Oui, bien sûr.
Juste une petite prise d'information. Est-ce que le planning va mieux? Il y avait eu des doutes qui planaient sur les financements. Il y avait des réductions. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont redevenues à flot, plus exactement pour vous?
J'irais pas jusqu'à dire à flot, parce que, comme beaucoup d'associations, on souffre aussi de manque de financement. Ouais. Parce qu'effectivement, les financements ont été revus. Il y a eu des remaniements de lignes budgétaires qui nous ont pas vraiment profité. Après, le planning va bien quand même. On est quand même capable d'accomplir les missions qu'on s'est fixées. Donc c'est l'essentiel. On est toujours capable de donner un accueil agréable et un accueil accompagnant aux usagers qui viennent nous voir. Après, voilà, comme beaucoup d'associations, ça nous ferait pas de mal d'avoir un peu plus de financement.
D'accord. Si on revient sur la santé, est-ce que sur la question LGBTI, vous avez des axes plus particuliers et que vous voyez poindre finalement et que d'autres ne verraient pas directement comme aide, du moins sous un autre regard, quoi.
Nous, on a de nombreux axes sur les questions LGBTQIA+.
Qui sont ?
On a par exemple fait une action. Alors c'était une action plus large, pas spécialement visée juste LGBTQIA+, sur l'éducation sexuelle pour les jeunes, avec notamment l'idée d'une éducation sexuelle aussi à ces sujets-là, pour pouvoir aussi vulgariser ces sujets-là pour les jeunes et que ce soit accessible, parce qu'on remarque que les ressources pour les jeunes sur ces sujets-là, c'est pas forcément simple à trouver. Et donc nous, on veut aussi rendre cette éducation sexuelle accessible pour ces jeunes-là aussi. Après, on prend des positions aussi sur des sujets de société liés à ces problématiques-là. On a pris position pour la PMA, pour ce genre de choses.
Vous avez participé, effectivement. On peut dire que l'éducation sexuelle, aujourd'hui, est vraiment problématique. Donc, en règle générale, il y a des cas certainement très différents, mais globalement, l'information sur la sexualité, la pratique, la connaissance du corps est quand même très compliquée aujourd'hui.
Oui, on remarque que, alors, normalement, il y a des séances d'éducation sexuelle qui sont obligatoires pendant l'éducation.
Oui.
Et on remarque, en rencontrant les usagers et les usagères, que... parfois, c'est très lacunaire, qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de séance d'éducation sexuelle dans leur vie, et donc qui ne connaissent pas plein de choses sur la santé sexuelle.
Mais c'est comme avec moi et Sophie, nous sommes de la même génération. Nous, l'éducation sexuelle, c'était monsieur, madame Lapin, c'est ça, Sophie ?
Oui, à peu près.
Voilà, donc.
C'est lié à la.
Voilà. On ne parlait pas des choses et de la réalité. On en parle peut-être plus aujourd'hui, mais ça reste encore lacunaire.
Oui, bah moi, si ça peut vous rassurer, qui suis d'une génération
plus jeune.
Un peu plus jeune.
Elle l'a dit. Ah
moi, j'ai eu une séance d'éducation sexuelle et c'était comment mettre un préservatif sur une banane.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, donc, on remarque que du coup, il y a des jeunes personnes, des jeunes filles, des jeunes hommes et autres qui... viennent nous voir avec des questions qui devraient être répondues depuis des années.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit vive les manèges enchantés. Hein. Et c'est pas Pollux, hein. C'est pas la même chose si je reste dans ma génération. Bon, alors, on te remercie beaucoup, Chloé. Est-ce qu'il y avait un point que tu voulais mettre en exergue par rapport à la santé avant qu'on se sépare et qu'on attende,
voilà. Non, juste principalement vous dire que n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Voilà. C'est gratuit et c'est anonyme. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, ça peut être important d'avoir un suivi ou un accompagnement sur certaines choses, et qu'on est près de la place Jean 23 et qu'on tient des permanences d'accueil, donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin à faire appel à nous.
Sophie, une question.
Oui, je voulais savoir aussi si vous continuez aujourd'hui à accompagner des femmes, entre autres, qui sont migrantes ou qui viennent et qui ont subi soit des mutilations sexuelles, soit des violences, etc. Parce que nous-mêmes, en tant que lesbiennes et tout ça, il y a des femmes qui viennent de pays divers qui ont subi ça et on ne les oriente pas nécessairement vers vous, alors que peut-être ça vaudrait la peine.
On pourrait effectivement les recevoir, et dans tous les cas, même si nous on se considère comme pas forcément compétent sur le domaine, on va forcément trouver à qui rediriger la personne.
D'accord. Merci Chloé, merci Sophie, et on continue.
Radio G 101.5 FM.
Alors là, si vous ne connaissez pas, c'est une question générationnelle et on ne peut rien pour vous, hein, vraiment, véritablement. Pourquoi Blondie? Pourquoi Debbie Harry? Eh bien, tout simplement parce qu'elle fait partie de ces artistes qui s'est déclarée bisexuelle. On en reparle dans quelques instants. Déjà depuis si longtemps. Radio G, Quasar on the air. L'émission de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers. Nous poursuivons notre périple avec nos invités EES maintenant. Concernant cette fameuse édition, 21e du nom, de la Pride d'Angers, qui aura lieu ce samedi. On va tout vous donner comme détail en fin d'émission. J'accueille au téléphone Maëlle. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors, on t'accueille parce que tu vas nous parler de ton action et de celle des personnes qui sont au sein de ce collectif qu'on appelle les collages féministes angevins. Alors, de quoi il s'agit très exactement et quelle est l'histoire finalement de ce groupe ?
Il s'agit d'un groupe qui existe déjà au niveau national.
Oui.
Depuis l'été 2019. Et donc, on a, voilà, collage parce qu'on a vraiment une technique particulière d'écrire, je ne sais pas si vous les avez déjà vus dans les rues d'Angers, mais d'écrire en grosses lettres noires sur des feuilles A4.
Mm-hmm.
Et voilà, qu'on colle dans
les
la
unes
rue,
à vraiment... côté des autres pour faire une phrase, un mot, un slogan.
C'est exactement.
Ça. D'accord. Et donc, vous êtes apparu sur Angers, vous vous êtes réunis et comme ça, formellement, entre vous, comme ça, à plusieurs.
Oui, c'est ça. C'est parti de Paris et de Marseille et ça s'est développé dans d'autres villes. Et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, notamment par Instagram. Donc, on vous donnera notre page après.
Oui.
Et donc au départ, c'était les thèmes des collages, c'était les féminicides. En fait, donner par exemple les noms des femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, donner le nombre de féminicides à un moment T dans l'année. Voilà, et puis peu à peu ça a évolué, les slogans ont évolué. Donc on dénonce évidemment toujours les féminicides. Oui, on va dénoncer le sexisme dans toutes ses formes et aussi dénoncer d'autres discriminations liées à la classe, à la race, au genre, à l'orientation sexuelle. Voilà, ça a évolué dans le temps.
Et alors, votre action aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une action légale, illégale, vis-à-vis du droit ? Posons-nous cette question une fois pour toutes et puis on parlera après du contenu plus en détail.
Alors, c'est une action illégale.
Oui.
C'est considéré comme dégradation des biens publics. Après, c'est aussi pour ça qu'on utilise cette forme. Où c'est quelque chose d'un peu moins marquant que le tag.
Oui.
Parce que c'est juste des feuilles de papier qu'on colle avec de la colle à papier peint ou de la colle farine sur les murs.
D'accord. Oui,
donc ça peut être enlevé assez facilement. Oui. Et c'est aussi à la portée de tous et toutes.
Voilà, c'est ça.
C'est beaucoup plus accessible que le tag.
Une arme, finalement, très populaire et très facile à utiliser.
C'est ça.
Dans les thématiques que tu as décrites, est-ce qu'il y a véritablement une prise de conscience sur ces différents points grâce à vos actions ? Est-ce que vous avez des retours de personnes qui vous ont rejointes ou qui vous entendez que des gens ont vu et se sont dit « oui, bah, effectivement, je ne l'avais pas vu sous cet angle ».
Oui, bah, vraiment, c'est pour ça. En fait, le but, c'est d'interpeller les gens.
Mmh.
En écrivant, au départ, voilà, noir sur blanc sur les murs, ce que les gens ne veulent pas voir. Par exemple, le nombre de féminicides, les discriminations et ou d'autres revendications, par exemple, anticapitalistes. Et oui, donc on a des retours, soit de personnes qui nous contactent par Instagram, qui nous soutiennent. Et surtout aussi, nous, un de nos buts, c'est aussi de soutenir les victimes, par exemple, de sexisme.
Oui.
Donc on a des slogans assez connus comme « on te croit »,« tu n'es pas seule ». Voilà, c'est vraiment dans le but de soutenir les personnes, dans le but d'interpeller, dans le but de pédagogie et dans le but de sensibiliser, de revendication aussi.
Vous êtes dans le droit fil de MeToo ou vous avez pris vos marques et vos distances ou en développant votre propre action dans le sillage, mais pas réellement dans cet axe-là ?
Bah, je pense qu'on peut dire que si, c'est dans la continuité de MeToo,
oui.
Puisque ça a paru après.
Oui.
Et avec tout ce qui a découlé de MeToo, par exemple les questions de genre, toutes les questions intersectionnelles, oui, on peut dire ça qu'on mérite. On a hérité de MeToo, c'est sûr.
D'accord.
Et du coup aussi, il y a dans le but de démocratiser toutes les questions féministes en fait. Et les rendre accessibles déjà sur l'espace public et tout ce que ça apporte aussi aux personnes qui viennent, qui nous rejoignent dans le collectif, de pouvoir discuter féminisme, de pouvoir discuter de différentes questions, que ça ne s'agit pas seulement de, il s'agit de parler des femmes, mais pas seulement des femmes, aussi de si on est une femme trans, si on est une femme racisée, si on est une femme, on parle de validisme aussi, on parle vraiment de beaucoup de sujets. Et voilà, oui, c'est ça. Je parle beaucoup de. J'ai dit au début qu'on parle de le fait de dénoncer et de faire de la pédagogie, mais il y a aussi tout ce que ça nous apporte à nous-mêmes en fait, en tant que groupe, en tant que collectif, et toutes les discussions qui sont mises en place pendant les collèges, le fait de se réapproprier l'espace public aussi.
Ça, c'est important. Hein. C'est vraiment important ça.
Non, je pense que c'est ça le point de départ.
Ouais.
Voilà, c'est se réapproprier.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Coller sur les murs, enfin, et de, en tant que minorité de genre ou en tant que femme, voilà. L'espace public, surtout la nuit, n'est pas
qui
confortable.
Est, par définition, l'espace et le temps le moins accueillant et le plus dangereux pour bon nombre des personnes concernées.
C'est ça. Et donc ça change beaucoup de choses pour les personnes qui viennent participer au collège.
Ça redonne une force.
Mmh.
Vrai.
Exactement.
Est-ce que quand on est un groupe qui réfléchit, qui a ses réunions, ses réflexions, on est toujours enclin ou encline personnellement à ne voir que la situation qui n'est pas encore réglée, qui est sombre, ou est-ce qu'on voit quand même des points de convergence ou d'amélioration, même s'il reste encore des combats à mener ?
Il reste évidemment plein de combats à mener. On n'a pas fini d'inventer des slogans contre voilà, le système dans lequel on vit, pour dénoncer toutes les discriminations qu'on vit. Mais par contre, en termes de, pour ce qui est positif, c'est vraiment la force, nous, qu'on en tire. Le côté thérapeutique aussi, le fait qu'il y a des personnes qui viennent pour coller un slogan qui leur appartient par rapport à leur vécu. Par
c'est
exemple, si elles ont vécu une agression en particulier, voilà, ou...
Mais en termes de santé, on peut dire, Maëlle, que là, vraiment, l'action, elle est une propre... Alors, pas peut-être thérapie, c'est exagéré, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre que la personne peut, elle, dont elle peut saisir, et finalement, ça lui apporte le bien dont elle avait besoin à l'instant et au moment où ça se fait avec tout le monde.
Mais oui, et moi, je pense que vraiment, on peut parler de thérapie.
Ah oui, d'accord. Alors, parlons de thérapie.
Non, mais que vraiment ça peut être un acte thérapeutique.
Mmh.
Et aussi l'autre versant de notre action, ça va être l'utilisation des réseaux sociaux. Donc nous on est sur Instagram et ça s'est vraiment développé par ce biais-là.
Mmh.
Donc il y a l'acte déjà dans la rue, le fait de coller, mais en fait, faut savoir que les collages sont assez vite arrachés.
Mmh.
Et ou dégradés. Et par contre, on les prend en photo et on les publie systématiquement sur Instagram, et ça reste, et ça marque, et c'est des slogans qui peuvent faire du bien, c'est des slogans qui peuvent interpeller, qui dénoncent des choses, et du coup, ça rend ça plus facile d'accès. Et il y a des personnes qui viennent, qui nous contactent, et pour dire qu'elles ont vécu, que ça leur parle, puisque ça parle de leur vécu, enfin, elles se reconnaissent dans les slogans qu'on a écrits. Et c'est repartagé sur les réseaux sociaux et ça fait parler de nous. Et il y a beaucoup de gens, toutes les semaines, il y a des personnes qui nous contactent pour nous rejoindre. Quoi.
Avant de nous séparer, Maëlle, parlons rapidement de l'atelier que vous teniez ce soir sur cette fameuse journée de la bisexualité. Vous l'avez abordé sous quel axe finalement ?
C'est surtout dans le but de se retrouver. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes bi ou en questionnement parmi d'autres identités dans le collectif.
Mmh.
Et donc voilà, parler de ce qu'on peut vivre en tant que personne bi ou pan, de toutes les stigmatisations qu'il peut y avoir autour de ces identités-là, de définir aussi ce que ça veut dire pour nous, la bisexualité. Et voilà, il y a assez peu d'espaces, c'est pas forcément des espaces qui existent dans toutes les assos LGBT par exemple.
Ouais,
ouais.
Et on sait de quoi
on parle. Important, au bout d'un moment, c'était important d'avoir un espace pour parler de ça.
Très bien, mais écoute, c'est sur ce joli sourire qu'on va se quitter, Maëlle, et puis on se dit à samedi alors dans la marche. Ça marche ?
Eh oui, à samedi.
Si on peut dire. Merci, au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Avant de refermer la dernière page de cette émission, laissez-moi vous rappeler quand même que samedi, c'est la Pride. Au cas où vous n'auriez pas bien compris, mais ce qui est important, c'est de vous donner les horaires. Alors, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un lieu, un nouveau lieu qui s'appelle l'Esplanade Cœur de Maine. Vous savez, vous descendez la rue de la Rose, vous arrivez sur une place en travaux qui s'appelle la place Molière, puis vous tournez un petit peu à gauche et là, vous avez un grand espace entre le pont de Verdun et le fameux nouveau pont des arts et métiers. Et là, nous allons être là, à droite de la pelouse. Nous allons dresser nos barnums, nos tentes, et je tiens à le dire publiquement, vraiment aidés par tous les services de la ville, vraiment qui sont impeccables et géniaux. On a eu quelques petites difficultés d'implantation, mais c'est réglé, rassurez-vous. Et on sera bien présent donc sur l'esplanade Cœur de Maine. Le village ouvre à 11h, vous pouvez nous rejoindre, il y aura les stands associatifs, nombreux. Et puis, il y aura le Pride Café, où vous pourrez prendre un verre avec les amis, et puis vous restaurer. Restauration rapide. Il y aura même un espace consommation avec contrôle du pass sanitaire parce que vous n'aurez plus de masque. Nous engageons à ce que les personnes dans le groupe portent le masque et soient évidemment observatrices des gestes sociaux, de distance, de barrières sanitaires. Et puis à 14h sur le même lieu, il y aura le rassemblement pour la marche et puis nous nous élancerons dans les rues d'Angers avec les prises de parole, place du ralliement et nous reviendrons au même lieu, esplanade Cœur de Maine, pour l'aspect festif et musical. On vous souhaite une très très belle soirée sur Radio G. Au revoir Florian, au revoir Sophie, au revoir Chloé, au revoir Maëlle. À la semaine prochaine, non, samedi. Dans 15 jours et à samedi dans les rues d'Angers. Ciao, bye.
Point 5 FM. Yes.